Chapitre 10. Le pré au clair. Le lendemain matin, quatre hommes traversaient les vertes allées du pré au clair en cherchant un endroit convenable et suffisamment écarté. Arrivés au pied du petit coteau qui bordait la partie méridionale, ils s'arrêtèrent sur l'emplacement d'un jeu de boules qui leur parut un terrain très propre à s'escrimer commodément. Alors, Eustache et son adversaire mirent bas leur pourpoint et les témoins les visitèrent, selon l'usage, sous la chemise et sous les chausses. Le drapier n'était pas sans émotion, mais pourtant il avait foi dans le charme du bohémien, car on sait que jamais les opérations magiques, charmes, filtres et envoûtements n'eurent plus de crédit qu'à cette époque, où ils donnèrent lieu à tant de procès dont les registres des parlements sont remplis et dans lesquels les juges eux-mêmes partageaient la crédulité générale. Le témoin d'Eustache, qu'il avait pris sur le pont neuf et payé un écu, salua l'ami de l'arquebusier et lui demanda s'il était dans l'intention de se battre aussi. L'autre lui ayant fait réponse que non, il se croisa les bras avec indifférence et se recula pour voir faire les champions. Le drapier ne put se garder d'un certain mal de cœur quand son adversaire lui fit le salut d'armes qu'il ne rendit point. Il demeurait immobile, tenant son épée devant lui comme un cierge, et si mal planté sur ses jambes que le militaire, qui au fond n'avait pas le cœur mauvais, se promit bien de ne lui faire qu'une égratignure. Mais à peine les rapières se furent-elles touchées, que Eustache s'aperçut que sa main entraînait son bras en avant et se démenait d'une rude façon. Pour mieux dire, il ne la sentait plus que par le tiraillement puissant qu'elle exerçait sur les muscles de son bras. Ses mouvements avaient une force et une élasticité prodigieuses que l'on pourrait comparer à celle d'un ressort d'acier. Aussi le militaire eut-il le poignet presque faussé en parant le coup de tierce. Mais le coup de quarte envoya son épée à 10 pas, tandis que celle d'Eustache, sans se reprendre et du même mouvement dont elle était lancée, lui traversa le corps si violemment que la coquille s'imprima sur sa poitrine. Eustache, qui ne s'était pas fendu, et que la main avait entraîné par une secousse imprévue, se fut brisé la tête en tombant de toute sa longueur si elle n'eût porté sur le ventre de son adversaire. « Tu, Dieu ! Quel poignet ! » s'écria le témoin du soldat. « Ce gars-là en remontrerait au chevalier Torchen. Il n'a pas la grâce pour lui, ni le physique, mais pour la roideur du bras, c'est pire qu'un arc du pays de Galles. » Cependant, Eustache s'était relevé avec l'aide de son témoin et demeura un instant absorbé sur ce qui venait de se passer. Mais quand il put distinguer clairement l'arquebusier étendu à ses pieds et que l'épée fixait en terre comme un crapaud cloué dans un cercle magique, il se prit à fuir de telle sorte qu'il oublia sur l'herbe son pourpoint des dimanches, tailladé et garni de passements de soie. Or, comme le soldat était bien mort, les deux seconds n'avaient rien à gagner en restant sur le terrain, et ils s'éloignèrent rapidement. Ils avaient fait une centaine de pas quand celui d'Eustache s'écria en se frappant le front. « Et mon épée que j'avais prêtée et que j'oublie ?» Il laissa l'autre poursuivre son chemin et, revenu au lieu du combat, se mit à retourner curieusement les poches du mort, où il ne trouva que des dés, un bout de ficelle et un jeu de tarot sale et écorné. « Floutière, et puis floutière !» murmura-t-il. « Encore un marpeau qui n'a ni michon ni toquante. Le glier ton troll, souffleur de mèche !» L'éducation encyclopédique du siècle nous dispense d'expliquer dans cette phrase autre chose que le dernier terme lequel faisait allusion à l'état d'arquebusier du défunt.